Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Temps Additionnel, l'émission de l'actu sport de la semaine avec Alex. Comme chaque semaine, on va se pencher un peu sur tout ce qui s'est passé sur la planète sport. Adichat, Alexandre.
Adichat, c'était une bonne semaine dans l'ensemble, malgré les défaites du Stade Toulousain, de l'équipe de France de football qui trébuche face aux Allemands et du Phoenix Toulouse. Par contre, la Formule 1, c'est une très bonne surprise. Et on va parler de tout ça aujourd'hui, Raphaël.
Exactement, pour cette 11e émission, donc un petit résumé, on aura les matchs de préparation à l'Euro qui ont débuté à l'occasion de la trêve internationale avec donc la performance de l'équipe de France, si on peut appeler ça une performance. On fera aussi un petit tour d'Europe, des préparatoires à l'Euro. Il y aura aussi le Stade Toulousain qui déchante une nouvelle fois en top 14. La Formule 1 aussi qui était en Australie ce week-end avec un surprenant vainqueur sur la première marche du podium. Et le Phoenix Toulouse, lui, a chuté aux portes de la finale après un très beau parcours. Tout ça... C'est tout de suite dans Temps Additionnel. On va changer un peu nos habitudes et parler de rugby en premier, ça fait jamais de mal. Ce week-end se jouait le choc UBB Stade Toulousain, un match qui a tenu toutes ses promesses et aussi un match qui est venu maintenant s'incliner. Le co-leader du top 14 maintenant, plus co-leader, mais au moment du match il était co-leader. Pour la seconde fois de suite, donc le Stade Toulousain tombe, deux défaites. Deux matchs, après celle subie face aux Catalans de l'USAP, c'est à nos voisins bordelais de faire chuter les Rouges et Noirs, donc défaite 31-28. Une rencontre qui nous aura mené tout au bout du suspense. On a eu 5 essais du côté bordelais, 4 essais du côté du Stade Toulousain, une seconde mi-temps totalement dominée par le Stade, mais c'est sans compter sur l'essai à la 70e de Beauchaton pour venir crucifier ces Toulousains. En première mi-temps, on perdait 24-7. Donc c'était une petite contre-performance et il y a eu la sortie aussi sur blessure de Thomas Ramos. Heureusement qu'il y a eu les jambes de feu de Mathis Lebel pour nous claquer un doublé en moins de 5 minutes, mais ça n'a pas suffi. C'est au mental que les Bordelais nous ont battus. En tant que Toulousain, ça fait mal de dire que Bordeaux nous a battus. Hein.
Bah oui, c'est dur de perdre un match contre un rival. Première période, on était muets. On laissait les Bordelais nous enseigner le rugby avec le retour de Damien Penaud qui a été brillant, honnêtement. Mais j'y croyais à un potentiel retour du Stade Toulousain. C'est quand même le Stade, c'est pas rien. Et en deuxième période, on se réveille. On a eu droit à un grand match de top 14 avec Pita Aki à la 53e minute qui aplatit le ballon et relance donc l'espoir de vaincre une équipe de l'UBB qui, pour moi, semblait plutôt en forme. Ils se sont donnés à fond contre le Stade Toulousain. Suivi par le doublé de l'ailier toulousain Mathis Lebel, dont l'un est aidé par une belle passe d'Antoine Dupont. Et ben ouais, et on perd avant la fin avec Pierre Beauchaton qui vient aplatir le ballon à la 71e minute. Score final 31-28 pour les Bordelais. C'est cruel. On n'a pas eu de chance avec la sortie, comme t'as dit, sur blessure de Thomas Ramos, remplacé d'affilée par Antoine Dupont à la 3ème minute. Je m'attendais pas à un comeback aussi rapide de Dupont. Et bien sûr, Juan Cruz Malia a donc pris le rôle par intérim de Ramos et est parvenu à le transformer. Ceci dit, quelques erreurs sont à souligner. Pour moi, l'essai de Beauchaton à la 71ème minute n'aurait pas dû être accordé. L'arbitrage n'était pas au niveau et des deux côtés, malheureusement. Et pour te dire, l'arbitre central et l'assistant vidéo se sont engueulés. Hein. Malgré ça, on peut dire que ce match a été une belle pub pour le top 14.
Franchement, oui, au niveau de l'animation et même, on voit aussi le côté un peu positif de médiatiser un peu plus les arbitres en les entendant parler. On peut savoir les faits et gestes exactement des arbitres, comment ils réfléchissent, mieux comprendre le match. Malgré ça, c'est vrai que la décision a fait un peu parler sur les réseaux. Mais bon, après, une défaite, il y a encore pas mal de matchs à jouer, c'est dommage. Mais la fin de match était quand même clairement bordelaise, donc on peut pas dire qu'ils déméritent sur la fin de match leur victoire. On va faire quand même un point sur le classement. Le Stade français, toujours premier, donc qui a réussi son week-end, contrairement au Stade Toulousain, deuxième, 56 points. L'UBB qui passe troisième devant le Racing 92, donc un top 3 Stade français, Toulouse, Bordeaux-Bègles. Ça va être très intéressant, en tout cas la fin de saison, sachant que c'est les 6 premiers qui peuvent prétendre au titre. Nos voisins aussi, Catalans, on peut en parler, qui sont 11e, qui continuent aussi sur leur belle lancée, donc on espère le meilleur pour eux. Prochain match du Stade Toulousain, week-end prochain, il faut espérer un mauvais pas du Stade français pour le raccrocher, pour accrocher quand même la première place, c'est un symbole, même si ça vaut rien à la fin de la saison. Il faut aller la chercher pour le mental de nos joueurs du Stade Toulousain.
Après, pour moi, le prochain match du Stade Toulousain contre Pau est intéressant. En ce moment, le club palois est bien classé. 8e, c'est pas mal. Et en plus, le club a recruté le champion du monde 2023, le All Black Sam Whitelock, un joueur expérimenté. On verra comment le coach Hugo Mola abordera la rencontre. À mon avis, on gagne, mais ça ne va pas être une large victoire. Je serai à Ners Vallon à côté du groupe de supporters Le 8 qui anime la tribune Nord. Ça va être un bon match.
En tout cas, Alexandre, on te souhaite un très bon match le week-end prochain.
Merci beaucoup.
On va désormais passer au football et ce n'est pas non plus de bonnes nouvelles. Défaite nette de l'équipe de France au Groupama Stadium de Lyon face à la Nationalmannschaft. L'Allemagne s'impose 2-0 en terre lyonnaise. C'était samedi dernier, donc une équipe de France méconnaissable qui s'écroule complètement face aux Allemands bien plus forts. Hein. Dès la 6e seconde de jeu, c'est l'attaquant du Bayer Leverkusen, Wirtz, qui vient marquer le but le plus rapide jamais encaissé de l'histoire de l'équipe de France. 6 secondes quand même, il fallait vraiment pas être en retard. C'est Kai Havertz ensuite qui vient enterrer les espoirs français à la 49e minute, défaite donc 2-0 dans un non-match des Bleus très clairement, sans réelles ambitions d'aller vers l'avant ou de créer du danger. Cette équipe, elle m'a fait penser un peu au TFC, hein, une équipe qui ne va pas vers l'avant et une fois arrivée devant le but, ben, elle sait plus quoi faire du ballon. Donc une équipe qui se base aussi un peu trop sur des exploits individuels. Une équipe orpheline d'un Antoine Griezmann blessé qui, on le sait, apporte beaucoup dans l'entrejeu de l'équipe de France.
Ah, pour commencer, moi j'ai trouvé une équipe de France vraiment aux fraises. Déjà, on encaisse un but sur les 10 premières secondes avec la frappe flottante de Florian Wirtz qui met dans l'embarras le gardien Brice Samba. Puis, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais quand même que l'Allemagne a bien joué avec son jeu de passe et le danger qu'elle a su mettre en place avec Jamal Musiala qui mettait un pressing fou sur la défense française. C'est une teigne ce type.
Bon, c'était quand même mieux hier soir au Vélodrome face au Chili d'Alexis Sanchez et du Toulousain Gabriel Suazo. Victoire 3-2, des buts de Konaté, de Colomoigny et de Giroud. Victoire mitigée hein, quand même, où les Bleus n'ont pas totalement maîtrisé leur sujet en tout début de match et en fin de match aussi, ils nous ont fait peur parce que les Chiliens ont failli revenir. Donc la France a plus brillé avec des exploits individuels. Le message est passé, hein, ne pas s'enflammer avant l'Euro. Hein. Je sais qu'on pouvait voir la France dans des ultra favoris. Les deux matchs qu'on a fait là, bon... C'est la coupe, en tout cas, elle n'est pas dans la poche. Il y a du boulot pour le stade de Didier Deschamps. Pardon. On espère peut-être un retour d'Antoine Griezmann pour mettre un peu de liant dans cette équipe qui est trop individuelle. C'est méconnaissable.
Oui, voilà, c'est vrai. De toute façon, c'était pas terrible contre l'Allemagne, mais voilà, contre le Chili de Gabriel Suazo, c'était chaud. Mais heureusement qu'on gagne grâce à Olivier Giroud qui marque le troisième but quand même. Et beaucoup ont critiqué la performance de Brice Samba contre l'Allemagne, sauf que là, c'était Mac Maignan, le numéro 1 des gardiens des Bleus qui jouait. Donc, on sait que le gardien n'est pas le problème, mais c'est la défense qu'il faut revoir surtout. Ne nous emballons pas, ce sont que des matchs amicaux, mais ça annonce déjà la couleur de l'Euro 2024.
Exactement, en plus on a vu que la Pologne rejoindra le groupe de la France pendant l'Euro, donc franchement ça va être pas mal. Mais on rappelle quand même qu'il reste des matchs juste avant l'Euro pour bien se mettre en jambes. Donc on espère peut-être le retour de blessure d'Antoine Griezmann, on espère peut-être d'autres surprises, peut-être qu'ils vont apparaître en Ligue 1 ou dans le championnat pour mettre un peu de piment dans cette équipe. Franchement, moi j'ai hâte de l'Euro, ça va être vraiment pas mal. Il n'y avait pas que la France quand même cette semaine. Plein de matchs se sont joués, notamment Portugal-Suède, hein, victoire 5-2 des Portugais et aussi Angleterre-Brésil. Franchement, quel match, match fou soldé par un but de Hendrick, l'entrée en jeu de la pépite brésilienne de 17 ans qui est venue marquer le but du 1-0 à la 86e à Wembley pour arracher la victoire. Franchement, un gamin de 17 ans qui vient du Brésil, vient faire gagner son équipe nationale, c'est franchement un rêve. De mon côté quand même, le score, malgré le score assez faible, ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant régalé devant un match de foot. Il y avait des actions partout, franchement l'arbitre courait aussi dans tous les sens. Angleterre-Brésil, match de rêve, affiche de rêve et résultat de rêve. On va faire un petit tour quand même sur les autres rencontres. On a parlé des principaux matchs, mais il y a eu quand même des matchs importants qui ont eu lieu durant cette trêve qui se termine. Donc l'Italie ressort vainqueur de ces deux matchs de l'Équateur et du Venezuela. Les Pays-Bas écrasent aussi l'Écosse 4-0. Le Portugal, on en a parlé, a gagné 5-2 face à la Suède, mais a été défait contre la Slovaquie malgré un CR7 titulaire. Il y aura peut-être des débats autour de CR7 titulaire à l'avenir parce que ça va être un peu compliqué durant l'Euro, je pense, de le voir titulaire, surtout comment il joue avec lui. Nos voisins aussi d'Outre-Rhin, les Allemands, se sont imposés face aux Pays-Bas 2-1.
Effectivement, pour le débat de Cristiano, on en parlera après, pendant l'Euro. Mais d'abord, je vais commencer par le fait que je suis surpris des courtes victoires de l'Italie contre des adversaires complètement à leur portée. Je veux dire, on affronte le Venezuela de Christian Caceres, on gagne que 2-1. Ensuite, on affronte l'Équateur, score final de 0. Barella met le but à la toute fin. Après, il y a aussi le lieu. Hein. Je veux dire, il y a l'Italie qui a décidé de jouer aux États-Unis. Et forcément, les joueurs ressentent plus de fatigue. Mais qu'importe, c'est bientôt l'Euro, donc on verra comment ça se passe. Et j'espère que l'Italie fera un beau parcours, tout comme la France. C'est ce que je souhaite.
Je pense que l'Euro, il va être très très serré et très très... très excitant. On a un petit point quand même sur les autres résultats. On a Ukraine-Islande. Pourquoi on vous parle d'Ukraine-Islande ? Parce que c'était le match pour se qualifier pour l'Euro. Qui tombe donc, l'Ukraine qui tombe donc dans le groupe de la Belgique. La Pologne retrouvera la France pour les groupes de l'Euro. Et c'est la Géorgie qui a été qualifiée dans le groupe du Portugal pour la première fois de son histoire. Donc la Géorgie participera à l'Euro. En tant que Portugais, je suis bien content que la Grèce ne tombe pas dans le groupe du Portugal. Les souvenirs de 2004... me remonte un peu.
Après, ça remonte quand même à il y a 20 ans, mais la Géorgie, très belle équipe. Hein. On a Mikotadze, on a Kvarashkelia. Ça va être quelque chose, l'Euro.
Franchement, il y a des pépites. C'est une nouvelle génération qui donne beaucoup d'espoir. Et franchement, là, l'été, Copa América, JO, Euro 2024, on va être très, très servi.
On va bien se régaler.
Là, il fallait se lever très tôt, très très tôt pour assister à une révolution en Formule 1. Non, ce n'est pas Max Verstappen ni Sergio Pérez qui sont montés sur la première marche, mais bien une Ferrari. Et quelle Ferrari ? Celle de Carlos Sainz. Carlos Sainz donc qui remporte ce Grand Prix d'Australie 2024. Donc ça valait le coup, je pense, hein, de se lever à 5h du matin pour assister au Grand Prix. Évidemment, décalage horaire oblige. Donc des dépassements, de la stratégie, des surprises. Par exemple, la surprise, Max Verstappen qui abandonne, c'était pas arrivé depuis 20 Grands Prix, 21 Grands Prix, depuis quasiment un an et demi. Donc il a abandonné suite à un problème de frein, même Lewis Hamilton qui abandonne suite à un problème moteur. Donc du mouvement en Australie ce dimanche, ça fait du bien de voir notre vainqueur en Formule 1. Donc Carlos Sainz remporte donc sa troisième victoire chez Ferrari. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus décomplexé depuis qu'il a plus sa place chez Ferrari l'année prochaine, parce qu'on le rappelle, c'est Lewis Hamilton qui va venir le remplacer. Donc tant mieux pour lui, et tant mieux pour nous, hein, pour les passionnés de ce sport.
Je crois que pour l'instant, c'est la meilleure course cette saison, parce que même dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais pas à ça, une grosse surprise, vraiment. Non, parce que voir Max Verstappen, celui qui détruit les espoirs des autres pilotes depuis 3 saisons déjà, qui se prend un DNF, did not finish, à cause d'un début d'incendie dans sa voiture, c'est juste inconcevable d'imaginer un pilote comme lui d'abandonner. Et surtout, qui dit abandon de Verstappen, dit le retour d'une vraie compétition avec de vrais enjeux. Bien sûr, c'est Ferrari qui sort vainqueur de ce Grand Prix d'Australie avec sur le podium le Matador, Carlos Sainz et il predestinato, Charles Leclerc. Bon, quand vous m'écoutez, vous pensez que je déteste Verstappen, ce qui est faux bien sûr, mais quand vous avez un pilote qui écrase tout sans laisser une miette aux autres pilotes, ça devient juste lassant. On dirait que tout est facile pour lui. Bref, profitons de la victoire de Ferrari, Raphaël, parce qu'au prochain Grand Prix, on va être moins enthousiaste. Surtout quand tu sais que Verstappen va être revanchard après ce revers.
Là, son esprit guerrier va totalement ressortir. J'ai l'impression que le prochain Grand Prix, il va gagner avec 3 tours d'avance sur le second. Donc quand même, en parlant classement, on va faire le petit top 5 de l'Australie 2024. Donc Carlos Sainz qui s'impose sous régime de virtuel safety car. Donc ça veut dire qu'il y avait un danger en fin de course sur la piste. Et que du coup, sur les 5 derniers tours, les pilotes étaient au ralenti. Mais le classement n'aurait pas totalement bougé. Hein. Carlos Sainz premier, Charles Leclerc deuxième, un doublé Ferrari, c'était pas arrivé depuis pas mal d'années, je crois. Lando Norris qui complète ce podium troisième, Oscar Piastri quatrième. Et la première Red Bull, c'est Sergio Pérez cinquième. Donc, Grand Prix, franchement, parfait pour les Rouges. Bon, fier, je pense que c'est le mot parfait hein, pour définir cette campagne toulousaine quand même en Coupe de France de handball. Fier de cette équipe qui a su faire face au gros du championnat avec leur petit budget 2 à 3 fois moins élevé hein, que les équipes qui composent le podium. Paris, Nantes, Montpellier, ils ont des budgets assez énormes face au petit budget du Phoenix. Donc, nos Toulousains quittent la Coupe de France de hand aux portes de la finale, défait par les Nantais dans un match au bout du suspense dans un palais des sports de Toulouse en ébullition de défaite 28 à 26. La hiérarchie du classement a été respectée, Nantes retrouvera donc l'ogre parisien en finale en mai prochain, donc focus maintenant sur le championnat pour décrocher la place en Star League, la Ligue des Champions version handball.
Mais quelle déception, et je suis pas du tout déçu par le Phoenix, loin de là, mais plutôt de cette défaite cruelle. Les Nantais sans pitié ont détruit en quelques minutes l'espoir de voir nos Toulousains se hisser en finale. En finale, tu te rends compte ? Bref, dommage hein, que la Coupe de France s'arrête là, je tiens quand même à féliciter le parcours du Phoenix qui nous a fait vibrer. Maintenant, focus sur la Star League, tant pis pour la Coupe de France. On est quatrième, donc toujours prétendant à être européen la saison prochaine, si tout se passe bien, bien sûr. Est-ce que Nantes a été dominateur malgré un score très serré entre les deux équipes? Pour moi, oui. Si tu vois les statistiques, Nantes a dominé le Phoenix. Et je l'ai très vite ressenti quand il marquait à chaque fois en moins de 2 minutes. C'était l'enfer. Alors que nous, ouais, bah, c'était beaucoup plus compliqué de trouver une faille face aux Nantais. Donc on a perdu, certes, mais on garde la tête haute.
Ah, on peut garder la tête très haute, hein, franchement. Ça, c'est de bon augure quand même, parce qu'il y a une bonne génération qui se met en place. On peut espérer des meilleurs résultats l'année prochaine, et pourquoi pas aller chercher la place en Star League un peu plus facilement l'année prochaine. La légende des frères Lebrun continue de s'écrire un peu plus au ping-pong ce week-end. Les deux frères se retrouvaient en finale du championnat de France de ping-pong, deux frères qui écrasent tout sur leur passage. Je sais pas comment les parents les ont nourris, mais en tout cas, bah, ça marche très très bien. Résultat, c'est l'aîné, Félix Lebrun, qui a remporté le titre de champion de France en 6-7. Le petit frère Alexis est revenu à 2-7 partout, mais ça n'a pas suffi encore une fois ici. Eh bien, hiérarchie respectée, c'est le grand qui bat le petit.
Mention spéciale quand même sur sa célébration sans pitié, hein. Son petit frère qui a fini en pleurs, l'autre il fait la célébration de Ronaldo, il commence à faire le clapping, très malveillant. Mais faut le comprendre, hein, c'est un compétiteur. Hein. Frère ou pas, quand c'est une compétition, tu ne dois pas faire de cadeau à l'adversaire. Et puis, on peut féliciter le parcours d'Alexis pour un 22e mondial, affronter en finale son frère aîné, Félix, 5e mondial. J'ai vu des points qu'on ne voit habituellement qu'avec les Chinois. Même si le ping-pong est très peu médiatisé, je me dis que ce sera grâce aux frères Lebrun et aux Toulousains, Simon Gauzy quand même, que plus de personnes vont s'y intéresser. Et sans parler des JO qui arrivent à grands pas, on va suivre tout ça de très près.
Ah ben là, c'est les plus grands espoirs français du ping-pong depuis les années 80-90. Et franchement, mais ça fait plaisir de voir ces deux frères. Ils doivent se connaître par cœur, ils ont dû faire tellement de parties ensemble, chez eux ou en club. Ils se connaissent par cœur les deux, donc vraiment, ça doit être un des matchs les plus durs à jouer, tu joues contre ton frère, en finale. Il y a la fraternité, mais il faut être champion de France, quoi. Donc il n'y a plus de frères, il n'y a rien du tout. Il faut être champion de France. Alexis a gagné, il a célébré ça dignement. En tout cas, on apporte un gros soutien à son petit frère quand même. Mais c'était franchement incroyable. Enfin, incroyable de voir deux frères comme ça en finale de championnat de France de ping-pong. C'était complètement fou. La semaine prochaine, il y a des matchs intéressants à venir en Ligue 1. On a le classique, on a OM, PSG au Vélodrome. Donc le Vélodrome qui a été déjà pris d'assaut hier soir pour les Bleus. Il va être encore pris d'assaut par les Marseillais. Ambiance de feu, c'est sûr. Il y a le derby aussi du Nord, Lille contre le RC Lens. Ça va être aussi quand même pas mal. Et le rugby, on a le top 14, on a le Stade Toulousain contre Pau, on a le Racing contre Clermont, on a l'Aviron Bayonnais contre Toulon. Donc franchement... du très lourd.
J'attends de voir ce que le classique va donner. On sait que l'OM a une meilleure équipe que celle des années précédentes, mais à mon avis, même si ça se joue en terre marseillaise, au Vélodrome quand même, le PSG est toujours favori, pardon. Donc on peut s'attendre à d'éventuelles surprises. Et bien sûr, comment ne pas évoquer le duel tant attendu entre les Lillois et les Lensois. On parle peu de cette rivalité, mais elle est bien présente et les deux clubs sont prétendants à l'Europe. Ça rajoute un peu de la saveur, hein. Pour le rugby, même chose, je l'avais évoqué en début d'émission, il faut que le Stade Toulousain fasse à 100 faute contre une section paloise plus ambitieuse que les saisons précédentes.
C'est déjà la fin de cette 11e émission de temps additionnel. C'était toujours un plaisir d'écrire l'émission avec Alexandre. Merci aussi à l'équipe de Radio Esprit Cristiani de nous accueillir chaque semaine. T'en as pensé quoi toi, Alexandre ?
Alors, honnêtement, on a parlé beaucoup de choses aujourd'hui, c'était très chargé, on a eu beaucoup de choses, le Stade Toulousain qui malheureusement perd, l'équipe de France qui dérape, et bien sûr, la surprise, la Formule 1. Et en tout cas, je remercie également Radio Esprit Occitanie, 11e émission, c'est beau, ça continue toujours, ça continuera la semaine prochaine pour la 12e émission. Et Raphaël, bien sûr, plaisir partagé, hein. C'était un grand plaisir de participer.
Effectivement, on prend toujours un plaisir à écrire les émissions, donc on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 14h comme d'habitude, même heure, même radio, et nous on vous dit
à la semaine prochaine.